Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Patrick Bertrand, directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Stéphane Carcillo, responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, membre du Cercle des économistes et président du groupe d'experts sur le SMIC. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Auteur du conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux coalitions Alpha. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue et secrétaire général de Croissance Plus. Il y a Eric qui m'écrit « Pourriez-vous faire réagir vos intervenants sur la solution qui consisterait à conditionner les primes et les aides au fait de n'acheter que des produits français ? L'argent serait crédité sur une carte spéciale et cette carte spéciale ne pourrait être utilisée que sur des produits made in France. » Ça vous... Laurent, allez-y. Ah bah
je vais
on a plein de choses.
Écoutez, cher monsieur, moi je suis tout à fait d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'il va falloir reconstruire des usines qui produisent plus de 60% de nos composants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul fabricant français pour plus de 60% des composants que nous utilisons.
Oui, donc il ne peut pas y avoir... Oui, d'accord.
Alors, il y a une variante de ça, parce que c'est complètement idiot. C'est une variante qui serait effectivement créditée une carte qui ne pourrait être dépensée que sur l'alimentaire et l'équipement des enfants, par exemple. Oui. Et là, de facto, ça sera 80% français. Mais effectivement, on ne peut pas le faire déjurer. Mmh. C'est-à-dire, on ne peut pas aller vérifier les étiquettes pour savoir si ça a été fabriqué en France ou pas. Ça serait illégal, contraire à toutes les règles européennes. Mais
il y avait aussi celui qui... Enfin,
ça a été envisagé. Il y a des variantes qui ont été envisagées, notamment pour les allocations familiales, qui auraient été versées en partie sous forme d'une carte qui ne pourrait être dépensée que pour acheter des produits pour les enfants.
La proposition, cette fois-ci, qui émane du RN, Stéphane Carcillo, cette promesse, alors celle-là a été maintenue, il y en a certaines qui ont un peu bougé dans tous les sens, par exemple la TVA zéro sur les produits de première nécessité n'existe plus dans le programme, mais par contre, l'exonération de cotisations pendant 5 ans pour les entreprises qui accordent des augmentations de salaire à tout le monde, général, jusqu'à 10% de hausse dans la limite de 3 SMIC. Votre lecture de cette proposition, qui est là l'une des propositions phares sur le pouvoir d'achat justement proposé par le Rassemblement National.
Alors, la première réaction, c'est que ça coûte très très cher aux finances publiques, hein, puisque c'est une mesure, si c'est effectivement utilisé par les entreprises qu'elles s'en saisissent, ça peut coûter vraiment extrêmement cher pendant 5 ans, ces augmentations de salaire, sachant que l'État va compenser le manque à gagner pour les caisses de sécurité sociale. Donc c'est une mesure extrêmement coûteuse.
C'est du pouvoir d'achat payé par la dette.
Voilà. Fait. Alors, est-ce que ça va augmenter en net les revenus ?
Voilà.
C'est le sujet. En fait, le principal problème de cette mesure, c'est que ça ne va très probablement pas augmenter les revenus nets par rapport au contrefactuel qui est l'absence de cette mesure, à cause des effets d'aubaine qui vont être massifs. Les entreprises vont de toute façon, celles qui vont bénéficier de l'aide sont celles qui vont de toute façon augmenter les salaires pour tous les salariés, car elles en ont les moyens en termes de productivité.
On ne dit pas que ça augmente le net, on dit que c'est une incitation pour un chef d'entreprise à accorder des hausses de salaire là où peut-être il n'en accorderait pas.
Mais justement, le principal driver des hausses de salaire, c'est la productivité. D'accord ? Les chefs d'entreprise ne vont pas augmenter les salaires en absence de hausse de la productivité juste pour pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale sur une partie de leur augmentation. Donc, les entreprises qui vont utiliser ce dispositif sont celles qui ont des gains de productivité, qui l'auraient fait de toute façon. Et du coup, par rapport au contrefactuel qui est l'absence de cette exonération, les revenus n'augmenteront quasiment pas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une très légère augmentation du revenu disponible pour les ménages bénéficiaires, parce qu'on va se partager l'exonération entre entreprises et salariés. On va se partager cette manne, donc il y aura une très petite augmentation. Mais est-ce que ça va générer des hausses de salaire qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de la mesure, moi je n'y crois absolument pas. Donc au final, c'est une mesure qui me semble finalement un coup d'épée dans l'eau, qui n'aura pas d'effet sur les augmentations de salaire en réel, qui est très très mal ciblée, puisqu'elle ne va pas cibler du tout les ménages qui en ont particulièrement besoin, et qui sera extrêmement coûteuse.
C'est encore assez limpide ce que vous me dites là, évidemment.
C'est très limpide. Un coup d'épée dans l'eau inopérant, en fait.
Oui, en n'oubliant pas que, alors je comprends, mais c'est pas une aggravation du déficit public, c'est une non-rentrée attendu de la
province. Oui, c'est à l'arrivée, c'est
on est d'accord,
pareil,
mais c'est pas non. Non, mais quand on explique coût pour la sphère publique, c'est coût. On a l'impression que c'est une dépense immédiate, c'est-à-dire qu'on augmente la. C'est non rentrée. Mais de facto, en solde,
de facto, l'État va devoir compenser la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est l'État qui va verser les cotisations sociales qui n'auront pas été versées.
Le problème, c'est qu'on peut pas éternellement bidouiller les cotisations sociales dans tous les sens pour fabriquer du pouvoir d'achat. Il y a un moment
global.
On change le modèle social radicalement.
Alors, moi, j'ai une autre proposition à la Carcio. Si on veut augmenter le pouvoir d'achat, les Espagnols sont en train de réduire la durée du travail en Espagne en étapes. De combien à combien ? De 40 heures à 38 heures, avec en direction de 37 heures et demie. Ce qui veut dire que dans l'Europe du Sud, c'est le 37 heures et demie qui s'impose. Donc moi, je proposerais éventuellement, si j'étais candidat, de porter la durée du travail à 37 heures par semaine, payer 37 heures. Et là, c'est du pouvoir d'achat en contrepartie d'une production. Parce que on parle de productivité, c'est la qualité du travail qui est fait, mais encore en amont, il y a la notion fondamentale de production. Si on te verse de l'argent sans contrepartie de production, c'est une destruction d'activité économique. Je propose de s'aligner sur les Espagnols et d'aller vers 37h30, puisque c'est l'objectif qu'ils se sont donné à l'horizon de 3 ans. Eux, ils sont en descente vers 37h30 et nous serions en montée vers 37h, 37h30. Et ça, c'est du vrai pouvoir d'achat.
Bon, j'ai une auditrice qui considère qu'il n'y a pas de contradicteur à notre discussion autour du plateau là. On essaye juste de décrypter les trucs et les effets. Les Grecs vont travailler 6 jours par semaine dans certains secteurs.
Alors, sur la remarque, il n'y a pas de contradicteur. Essentiellement, ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est de l'arithmétique en fait. C'est pas de la politique. Tout ce qu'on dit depuis ce matin, c'est purement et simplement de l'arithmétique. Alors, on peut avoir des contradicteurs à l'arithmétique, mais on change de monde.
C'est là où l'économie est toujours un peu clinique, et c'est là où certains vous diront « Oui, mais c'est sympa, votre arithmétique, mais après, il y a des gens qui y vivent ou qui vivent pas. »
On est en train de proposer des solutions, augmenter la durée du travail ou augmenter la prime d'activité.
Encore une fois,
on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de pauvreté.
Encore une fois, c'est le travail.
On est en train de dire qu'il y a des solutions qui sont raisonnables et d'autres qui sont déraisonnables.
C'est ce que dit Gilles Berset ce matin, c'est le travail qui fera effectivement les gains de productivité, pas de pouvoir d'achat sans production. Hier, encore une fois, Jean-Marc Viteri disait, si on veut des revenus et du pouvoir d'achat, il faut des facteurs de production qui sont le capital, le travail, et c'est la réunion de ces facteurs et de l'efficacité de cette réunion qui produit de la productivité.
Mais le plus inquiétant, je termine sur ça, c'est que 70% des Français pensent que le pouvoir d'achat est déconnecté de la production. C'est ça qui est terrifiant sur le moyen terme.
Beaucoup de gens pensent
alors
que le pouvoir d'achat viendra
de choix
politique.
En Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, 70% des Allemands, des Hollandais et des Belges pensent que le pouvoir d'achat dépend de la production. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos écoles pour que plus des deux tiers de la population pensent que le pouvoir d'achat est déconnecté de la production. C'est ça le point clé.
Allez-y, Laurent Vronsky.
Sujet essentiel. Ce qui est intéressant, justement, sur les deux thèmes qu'on vient d'aborder, c'est que une fois de plus, l'économie, je veux dire, c'est pas de l'économie pousse-bouton. Hein, et c'est un thème qui revient inlassablement. Alors, moi, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que vous dites. Vous avez raison, il faudrait éduquer les élites, mais seulement, je veux dire que ça fait maintenant 20 ou 30 ans qu'on les éduque. Mais il y a quand même, il y a énormément d'organisations professionnelles auxquelles j'appartiens, qui ont essayé d'évangéliser, d'expliquer l'économie, d'expliquer tout ça.
Je ne crois plus au coup de la pédagogie.
Non, je n'y crois plus non plus. Je pense qu'il faut continuer à le faire, mais il y a toujours ce réflexe pavlovien, et c'est très français, de penser qu'on peut piloter l'économie à coup de pouce-bouton. Et ce que vous venez d'expliquer très bien et très clairement, c'est qu'on est dans une économie de marché. Et que dans une économie de marché, ce qui prime, c'est le marché. Et donc, de dire on va raser gratis et on va augmenter tout le monde et tout va bien se passer, c'est juste complètement faux. C'est-à-dire que le driver principal pour une entreprise, c'est le carnet de commandes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de débouchés, si vous n'avez pas de clients qui sont prêts à payer vos produits ou vos services, vous pouvez décider toutes les mesures économiques du monde, rien ne se passera. Et là, c'est sans doute ce qui explique l'incertitude. Quand on examine les deux programmes économiques, et pour certains, si on peut appeler ça un programme économique qui nous est proposé, on a vraiment un catalogue de recettes de cuisine presse-bouton. Et je pense que c'est ce qui crée énormément d'incertitudes au niveau des agents économiques. Donc ce matin, le but, c'était pas de faire, je dirais, un débat animé, c'était essayer de décoder et d'expliquer aux auditeurs que des choses qui apparemment sont simples et apparemment de bon sens peuvent avoir des conséquences qui sont précisément l'inverse de l'origine de ces mesures.
Et ce qu'on est en train de dire, moi j'aime beaucoup la phrase du leader du Labour qui fait sa campagne en UK. Il dit il y a un besoin d'espoir, quoi. Mais d'un espoir réaliste.
Ordinaire, et
d'un espoir réaliste. Et c'est ce que nous essayons de faire au cours de ces émissions ou ailleurs. Je veux dire, on est tous embarqués dans le fait qu'il y a des problèmes fondamentaux dans notre pays à traiter, qui sont pas uniquement des problèmes macro, mais qui sont aussi des problèmes de société. Et c'était intéressant dans votre émission d'hier ou avant-hier, la corrélation qui avait été faite entre le vote du RN et le nombre de kilomètres qu'il fallait faire pour aller à un centre de soins.
Oui, c'est ça.
Eh bien, c'est remarquable. Cette image est absolument remarquable. Parce que les gens ont besoin d'un espoir et d'un espoir réaliste. Et notre travail, c'est d'essayer de montrer que, de façon réaliste, on peut aller de l'avant. Et si je peux prendre deux secondes encore, je sais que j'ai été un peu trop long, mais c'est quand même assez frappant aussi que ces programmes sont un peu des catalogues presse-boutons, comme Laurent l'évoquait. Rien sur l'innovation et quasiment rien, le désert, sur comment améliorer l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques. Et encore, rien, et toujours rien. Ça fait 20 ans que ça dure. On nous explique que si, que ça, que etc. Absolument rien sur l'analyse et l'audit des dépenses publiques qui sont les plus élevées, comme le rappelait Christian tout à l'heure, de l'OCDE.
Il y avait un maire sur RMC hier d'une commune de 300 âmes qui, pour la première fois, avait été majoritaire à voter RN. Il a voulu comprendre. Donc 300 âmes, on peut quand même rencontrer les gens dans la rue.
Il connaît, oui.
Et ben, le principal moteur, ça a été une réaction à la fermeture du centre des impôts.
Oui, absolument.
Alors, il y a le centre des impôts qui a fermé.
Mais Nicolas, les chefs d'entreprise que nous sommes, et qui, enfin, d'entre nous en tout cas, nous on est dans la concrétude du matin au soir. Alors parfois on est un petit peu snobé par les élites qui pensent qu'on est un petit peu bas de plafond parce que nous on gère des problèmes qui sont au ras des pâquerettes. Mais nous savons que si on ne gère pas ces problèmes, je veux dire, c'est la révolution dans les boîtes.
Exactement.
Donc j'invite certains à venir faire quelques stages dans nos entreprises, et particulièrement les PME. Donc Hervor offre deux stages à deux grands théoriciens de la théorie pour voir que ce qui préoccupe les gens, c'est pas forcément le sexe des anges, et que c'est super important.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'on évoquait, vous évoquiez Christian Saint-Thiel, le niveau éducatif, sauf que ces programmes, ils sont quand même conçus par des gens qui ont un minimum de niveau de formation.
Exactement.
Et l'absence du mot innovation, l'absence du mot investissement.
Exactement.
L'absence de la notion de productivité comme seul et unique moteur du pouvoir d'achat. Alors soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle,
ou du dogmatisme.
Bon. Non, c'est.
Non, mais.
Christian, oui.
Il faut. Parce que ça fait 40 ans que je réfléchis à ça. Je fais beaucoup de conférences, on me dit, mais si c'est si simple, ainsi de suite. J'en suis progressivement arrivé à me dire qu'il y a deux façons de comprendre les choses dans la vie. Là et là.
Donc la tête et le vide.
Là, on peut tout imaginer. Et puis après, c'est ce que tu fais avec tes tripes quand t'es face au réel. Et donc, quand on fait un programme, j'en ai fait aussi, hein, ça fait un moment que je conseille un certain nombre d'hommes politiques, quand on fait un programme, je les vois bien ce qu'ils demandent. C'est des mesures qui vont attirer des voix. Donc, on l'a vu, le mot productivité, production, innovation, si c'est pas dans le débat, c'est parce que ça n'attire pas de voix selon ceux qui se présentent.
Bien sûr.
Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Patrick, Bertrand, je mets juste en garde sur un point, parce que malheureusement j'ai un certain âge et je connais mon pays. Faire naître un espoir irréaliste qui se fracasse, la prochaine fois,
c'est dramatique.
Ça sera le RN qui passe au premier tour.
Exactement.
Donc attention à l'espoir irréaliste qui se fracasse. Voilà. Ça, c'est extrêmement dangereux sur le plan des équilibres sociologiques et politiques internes. Donc certes, par rapport à votre auditrice, ça peut paraître effectivement, pour reprendre le mot de Laurent, pédestre et ras de terre, mais attention aux rêves qui se fracassent. Il faut se souvenir que la Grèce, c'est quand même le temple de la raison, de l'intelligence dans l'histoire intellectuelle mondiale. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Donc, il ne faut pas penser que nous sommes à l'écart de tout ce qui se
passe. J'aurais aimé entendre la phrase du leader du Labour sur besoin d'espoir, mais espoir réaliste.
Il y a Bob, lui aussi,
dans la campagne.
Il n'y a pas assez de contradicteurs aujourd'hui dans l'émission. Voilà. Ce n'est pas une science exacte, l'économie, dit-il.
C'est pas une science exacte, mais il y a des principes de base.
J'essaye de faire avancer au moins. D'abord, c'est pas un ring ici. On est plus là pour essayer de comprendre des mécanismes. Stéphane Carcillo, là, je serai face à Gabriel Attal ce soir. Je vais discuter avec lui de ce qu'il y a ou pas d'ailleurs en matière.
Il y a des bonnes relations, Nicolas. Vous avez des bonnes relations.
Il sera sur BFM TV. Ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas d'ailleurs dans le programme. En tout cas, il y a un truc qui vient de disparaître. C'est la réforme de l'assurance chômage. À la surprise un peu générale, tard dimanche, pof, le décret est publié évidemment parce qu'il fallait techniquement prolonger les règles actuelles car sinon elles s'éteignaient lundi à l'aube. Mais tous les éléments de réforme, terre ou quatrième réforme, disparaissent. Parce que vous comprenez que ce soit mis sur pause, enfin on nous dit sur pause, mais bon, on voit bien que pour l'instant c'est reporté sine die, est-ce qu'il fallait faire ça?
Alors, cette réforme de l'assurance chômage, d'abord, c'est la dernière salve, puisque les précédentes sont déjà en place, hein, notamment celles qui ont créé la contracyclicité. Hein. Une assurance chômage généreuse quand ça va mal et plus resserrée, moins généreuse quand l'économie est très tendue, quand le marché du travail est très tendu, ça reste en place. La réforme qui devait intervenir renforçait cette contracyclicité, puisqu'on passait de 18 mois à 15 mois de durée maximale, voir si le taux de chômage passait sous les 6,5%. On passait à 12 mois.
Mais là, il est un peu à la hausse, le taux de chômage. Justement.
Oui, très légèrement, le marché du travail reste très tendu. La France a créé 2,5 millions d'emplois depuis 2017. Le taux d'emploi a augmenté 3,5%. Les entreprises ont du mal à recruter. Donc, le marché du travail reste pour la France extrêmement tendu, même si notre taux de chômage a l'air d'être au plancher à 7,5% ou 7,3%. On a un marché du travail qui reste très tendu et donc très porteur. Donc, c'était bien, c'était le moment, je pense, de continuer cette réforme avec cette architecture vertueuse de la contracyclicité, de préserver la protection quand ça va mal et de renforcer les incitations à accepter des contrats de travail lorsque l'économie va bien. C'était la bonne chose à faire. De ce point de vue, c'est vraiment dommage de revenir en arrière. C'est aussi très problématique de ne pas revoir les règles d'indemnisation, notamment pour les demandeurs d'emploi plus âgés, parce que du coup, il y a maintenant un décalage entre la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites qui a porté à 64 ans l'âge normal de départ en retraite, et les règles de l'assurance chômage qui permettent assez rapidement de rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel de pré-retraite chômage, parce qu'il y a une prolongation de l'indemnisation du chômage jusqu'à arriver au taux plein, qui intervient aujourd'hui à l'âge de 59 ans et demi, 60 ans, et donc c'est beaucoup trop tôt par rapport à l'âge de départ en retraite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Malheureusement, c'était prévu dans ce décret et c'est pas fait, et ça coupe un peu l'herbe sous le pied de la réforme des retraites, dont on sait qu'elle est extrêmement importante pour expliquer l'augmentation du taux d'emploi en France. Le taux d'emploi en France, il a augmenté essentiellement pour deux raisons. Principalement parce que les seniors sont plus souvent en emploi et restent en emploi. Et aussi parce que les jeunes sont plus souvent en emploi, parce qu'on a fait beaucoup de réformes de l'apprentissage et un certain nombre de réformes qui ont favorisé le retour en emploi des jeunes. Donc de ce point de vue, c'est vraiment dommage de mettre ça sur pause. On pu se dire qu'effectivement, on aurait pu prendre cette mesure et voir si il y avait une majorité pour revenir dessus dans une semaine, ce qui n'est pas du tout évident. Et sachant qu'en plus, il me semble que d'un point de vue politique, je ne suis pas totalement, non, c'est pas mon domaine.
Ça ne va rien rapporter.
Mais je ne suis pas totalement convaincu que ce soit un gain politique, parce qu'on se dit, mais ça favorisera les reports de voix des électeurs de gauche sur Ensemble. Or, les électeurs d'Ensemble sont plutôt très déçus qu'on ne revienne pas sur cette mesure. Donc le gain n'est pas totalement évident.
Ça semble plus une décision de Macron que d'Attal.
Visiblement, sur l'histoire de la réforme de l'assurance chômage, là où Emmanuel Macron, à un moment, avait dit que finalement, on allait peut-être attendre un peu et remettre les partenaires sociaux dans le deal, tout d'un coup, c'était Gabriel Attal qui l'avait démenti deux jours après. Emmanuel Macron avait dit qu'il l'avait appris sur l'AFP. Donc, j'arrive plus, si vous voulez, à savoir. Alors là, mes auditeurs se déchaînent. J'en ai un qui me dit carrément, c'est pas de l'information, vous êtes en train d'imposer une seule et même vision. Le fait qu'il n'y ait pas de contradicteur, vous voyez, que j'ai des réactions qui sont vives. Il fallait continuer la réforme de l'assurance chômage, Christian Saint-Étienne.
Alors,
Parce que elle était dure, cette réforme, quand même. Objectivement.
Oui.
Elle était dure à un moment où le marché est très, certes tendu, mais avec un taux de chômage un petit peu...
Elle était dure. La moyenne de la durée d'indemnisation en Europe, c'est 12 mois et demi, d'accord. Il faut avoir contribué à l'assurance chômage en moyenne un an. Donc en passant à 15 mois, on continuait à être nettement au-dessus des autres pays. Donc elle était dure par rapport à la situation française qui était exceptionnelle. Elle n'était pas dure quand on rapporte à la moyenne de ce que font les autres pays dans lesquels il y a quand même une protection qui est importante. Et donc tout est relatif.
Ouais, hein.
Et objectivement, les demandeurs d'emploi dans des situations de tension du marché du travail sont sensibles aux paramètres de l'assurance chômage. C'est pas de la polémique, c'est simplement ce que disent les études, les dizaines d'études sur ce sujet. Donc c'est tout simplement les travaux scientifiques sur le sujet montrent que dès lors que le marché du travail crée des emplois, les demandeurs d'emploi répondent au durcissement des règles en acceptant plus souvent les contrats de travail qu'on leur propose.
C'est pas certains vous diront qu'ils acceptent des boulots de moins bonne qualité.
Oui,
c'est
non.
Toujours la critique qui est
opposée. Et bien en l'occurrence, ça a été étudié en France. À l'inverse, dès lors d'une réforme qui avait fait passer dans les années 2000 de 7 mois à 15 mois la durée d'indemnisation.
Il y avait donc assoupli, amélioré.
Assoupli.
C'est l'IPP qui avait fait l'étude.
Non, c'était Thomas Le Barbanchon.
Ah bon,
c'était,
je me trompe.
Et donc, il y a une étude qui a été réalisée. Et cette augmentation, ce doublement de la durée, n'a ni augmenté les salaires des emplois qui ont été repris quand on avait 15 mois au lieu de 7 mois, et n'a pas non plus augmenté la durée des contrats du tout. Donc, on peut se poser la question, c'est une question qui est très très débattue. Les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est que grosso modo, dès lors qu'on est autour de 10-12 mois d'indemnisation, on n'impacte pas la qualité des emplois lorsqu'on baisse la durée d'indemnisation.
Christian Saint-Étienne.
Oui, sur ce point, une autre façon de le dire, c'est que ce décret ne touchait pas les chômeurs pauvres, elle touchait les chômeurs en capacité de travailler, qui arbitrent, sont capables d'arbitrer entre les règles du chômage et le retour au travail. Donc, c'était une incitation au retour à l'emploi et on en attendait 100 000 travailleurs de plus, c'est-à-dire une incitation très forte à l'augmentation du taux d'emploi. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, pour moi, c'est que ça n'avait de sens de manière globale que dans le cadre d'une accentuation de la politique de réindustrialisation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, on a évoqué, on a parlé ni production, ni innovation, ni productivité dans la campagne, mais on n'a pas non plus parlé d'accélération de la réindustrialisation. Or, si on veut du pouvoir d'achat, parce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas. Nous sommes, malgré ce que certains auditeurs peuvent penser, tous les quatre d'accord pour que le pouvoir d'achat augmente, si vous réserve que la productivité et la production augmentent également. Mais les seuls vrais emplois qui payent, pour parler en termes de campagne électorale, ce sont les emplois de l'industrie. Donc, je regrette que, effectivement, le Premier ministre mette ce décret sur pause, mais je regrette surtout qu'on ne parle plus d'un effort colossal de réindustrialisation, qui est le seul moyen de sortir de la France de la trappe à faible croissance dans laquelle nous sommes. Le seul chiffre clé qu'il faut avoir à l'esprit, depuis 20 ans, la croissance en France tourne à 1,15%. On ne peut pas avoir distribution de pouvoir d'achat avec un 1% de croissance si on ne double pas le taux de croissance de l'économie, ce qui suppose une augmentation de la productivité. On est mort. Collectivement, on ne va pas s'en sortir. Donc, ces sujets centraux, le fait qu'ils ne soient pas dans la campagne électorale, pour moi, c'est extrêmement frustrant.
Je crains qu'il ne fasse pas voter. Boris m'écrit, la vérité des chiffres, ça ne se relativise pas. C'est une réaction par rapport au précédent tweet d'auditeur que j'ai reçu. Dernier sujet, 3 minutes 20, le bonus écolo modifié par Emmanuel Macron pour acheter une voiture électrique en France. Donc l'aide que l'État vous donne pour aller vous payer une voiture électrique qui coûte cher, eh bien on l'a un peu bidouillé pour en faire un truc made in Europe, réservé made in Europe, histoire d'exclure les voitures importées du reste du monde et principalement les voitures importées de Chine. C'est juste époustouflant les résultats, car vraiment effectivement les parts de marché des véhicules électriques importés de Chine, pas chinois, importés de Chine, y compris donc les Français fabriqués là-bas, eh bien se sont tout simplement effondrés entre janvier et avril. avril, donc c'était une bonne mesure.
Oui, c'est une très bonne mesure. Oui. Ça montre que justement, quand on prend en compte les données de marché, on obtient des résultats. Puisqu'on veut passer à la voiture électrique, mais le problème de la production, il n'est pas seulement français, il est devenu européen. L'Europe est en train de disparaître de la scène mondiale. L'Europe, c'était plus de 20% du PIB mondial il y a 15 ans. On est en train de s'effondrer en relatif. Voilà, alors encore un chiffre. L'Europe croit pas tellement plus que la France, mais un tout petit peu plus, donc peut-être 1,25. Les États-Unis sont sur une pente de 2,25 en tendanciel et la Chine de 3,5. Donc quand vous avez une croissance inférieure à celle des autres, vous disparaissez du marché de facto en poids relatif.
Si je discutais avec Jean-Marc Daniel, il dirait que c'est du protectionnisme. Visiblement, ça fonctionne.
C'est pas un vilain mot. C'est pas un vilain mot. Mais quand même, regardons très rapidement le schéma. L'Europe décide qu'on doit passer de la voiture thermique à la voiture électrique. On met en place un dispositif pour soutenir ce passage du thermique à l'électrique et qui va coûter. Pour acheter des voitures produites en Chine qui ne sont pas produites conformément aux règles environnementales qui sont établies en Europe.
Au charbon.
Et en même temps, on n'accélère pas le processus d'industrialisation. Alors là, puisqu'on parlait tout à l'heure de les faits sont têtus en économie, là, on a le cercle incroyablement vicieux. C'est incroyable. Donc, qu'à un moment donné, on règle un peu ce dispositif. Par contre, l'enjeu, et Christian l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'on développe l'industrialisation en France et notre capacité à produire en France.
Un mot, Laurent.
Oui, la question est simple. Est-ce que c'est le rôle de l'État français de subventionner l'industrie chinoise?
Bah oui, justement, c'était pour arrêter
donc 4 euros sur 10. Dès l'instant que vous donnez une sucrète, c'est quand même pour favoriser votre zone économique.
Oui, Laurent, c'est l'industrie chinoise. C'est les travailleurs chinois, parce qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui produisent leurs voitures.
J'entends bien.
Il y a cet auditeur qu'on peut comprendre d'un certain point de vue.
Cet auditeur qui s'appelle Den, qui dit « Je vous écoute, j'entends bien ce que dit Stéphane Carcio, mais la réalité, c'est que les gens votent RN ou NFP. Ça veut dire que votre plateau, dit-il, est déconnecté de la vraie vie. » Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce que nous disons est déconnecté de la vraie vie.
Donc ça veut dire que sur les plateaux,
ce qu'on a explicité aujourd'hui, c'est la réalité. Bon, et elle va revenir comme un boomerang.
Non, mais je vous donne des réactions que j'ai. Voilà.
Oui, mais on comprend ces réactions.
Voilà, on a fini. Merci Patrick Bertrand, Stéphane Carcio, Christian Saint-Etienne et Laurent Vauquier.
Oui, juste, pour les auditeurs...
Christian, il ne veut pas que ça s'arrête.
Non, mais on a offert des tas de propositions réalistes. Putain, on peut bouger dans le bon sens. On n'est pas obligé de bouger dans le mauvais sens.
Espoir réaliste. Allez, voilà,
c'est
l'auditeur qui
s'appelle Lacan. Il me dit pour une fois, oui, non, quand on vous écoute, c'est pas hors sol. Voilà, donc il y a.
Merci.
Il y a tous les amis.
Il y a la pluralité.
Voilà, merci à vous quatre. On se retrouve demain à 9h. C'est parti.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.